Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Toutes les 3 minutes, un enfant est diagnostiqué d'un cancer dans le monde. Dans 8 cas sur 10, ces enfants vivent dans des pays à faible revenu ou revenu intermédiaire avec des difficultés d'accès aux soins. On compte d'ailleurs un décès d'enfant par cancer toutes les 6 minutes. Pourtant, une grande partie de ces cancers se soignent bien. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir ce que les Philippines mettent en place pour améliorer le traitement des cancers pédiatriques. Ce pays de 100 millions d'habitants est le plus exposé au monde aux désastres naturels. On en a parlé récemment, dans l'actualité. La pauvreté frappe un quart de la population qui vit avec moins de 1 dollar par jour et les dépenses de santé ne représentent que 4,6% du PIB. 3500 enfants développent chaque année un cancer aux Philippines et seulement 2 sur 10 survivent de la maladie. Alors pour en parler, je reçois Cathy Forget, qui est déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir, une fondation qui soutient des projets aux Philippines et dans les pays en développement pour améliorer, entre autres, les traitements des cancers pédiatriques. Vous pouvez, si vous avez envie, nous appeler pour participer, pour nous dire ce qui se fait dans votre pays au 33 1 84 22 75 75. Et pour terminer, on parlera du symposium international intégration de la lutte contre les maladies parasitaires en Afrique subsaharienne qui démarre demain à Cotonou, au Bénin.
RFI.
Cathy Forget, bonjour.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors pour commencer, on va écouter le témoignage d'une maman, Gina. Elle a 39 ans, 3 enfants de 5, 4 et 3 ans. Samuel, le petit dernier, a une leucémie. Il est traité depuis 8 mois. Le mari de Gina est lui âgé de 28 ans. Il travaille dans la construction, gagne en moyenne 6 dollars par jour. La famille vit dans une sorte de bidonville, on peut dire, un peu en périphérie de Manille, dans un baraquement fait de planches, de tôles. C'est là que vivent la grand-mère, les frères, les sœurs, leurs enfants, en tout 19 personnes dans un petit espace réduit. Et Gina commence par nous raconter le temps qu'il a fallu pour que son enfant soit diagnostiqué d'une leucémie.
Mon petit garçon a commencé à se sentir mal, à avoir de la fièvre et à tousser. Je suis d'abord allée voir un thérapeute traditionnel qui soigne avec des plantes. Il m'a dit que mon fils avait été envahi par des forces surnaturelles. C'est ce qui a provoqué des bleus sur son corps et lui a fait perdre du poids. On a fait sur lui des sortes de prières et au bout d'une semaine, il n'y avait pas d'amélioration. Alors j'ai emmené mon fils au centre de santé. Comme il avait de la fièvre et qu'il toussait, l'agent de santé a pensé qu'il avait une pneumonie et lui a donné des antibiotiques. Mais il n'y a pas eu d'amélioration avec ce traitement non plus.
Et qu'avez-vous fait ensuite ?
Après le centre de santé, je suis allée à l'hôpital de l'East Avenue, dans lequel il y a un département de cancérologie. Mais pendant 2 mois, le pédiatre a donné à mon fils un traitement antibiotique pour soigner ce qu'il pensait être une pneumonie. Il a aussi eu des transfusions sanguines. Au bout de 2 mois, mon fils est allé un peu mieux. Alors on a pu rentrer à la maison pendant 15 jours. Mais petit à petit, la fièvre est revenue. Il avait toujours des bleus sur le corps. Alors une de mes voisines m'a dit que c'était peut-être plus grave et que je devais aller consulter au PCMC, le Philippine Children's Medical Center, l'hôpital pédiatrique de référence aux Philippines. Donc finalement, au bout de 3 mois, le diagnostic a été posé par les médecins de l'hôpital pédiatrique et on m'a dit que mon fils avait une leucémie.
Combien avez-vous dû payer au centre de santé, puis à l'hôpital, avant d'arriver à cet hôpital pédiatrique de référence et que le bon diagnostic soit posé ?
Au centre de santé, je n'ai pas eu à payer les consultations. On m'a juste demandé de faire un don, de laisser un peu d'argent si j'en avais les moyens. J'ai donné 20 pesos, 50 centimes d'euros. Mais surtout, j'ai eu à payer les médicaments qu'on avait prescrits à mon fils. Cela m'a coûté 500 pesos, 10 euros, ce qui est beaucoup pour moi. Puis quand il a fallu aller à l'hôpital de l'East Avenue, où mon fils a été hospitalisé 2 mois et où les médecins pensaient qu'il avait une pneumonie, la facture est montée jusqu'à 95 000 pesos. Une partie a été prise en charge par le système d'assurance maladie, une autre par des aides d'association. Mais il restait à ma charge 3 000 pesos, 60 euros, à payer avant de pouvoir rentrer à la maison. Et à cette époque, je n'avais rien, rien du tout. Ma belle-mère m'a dit d'expliquer que je n'avais pas d'argent et que j'étais incapable de payer cette somme. Je les ai suppliés de me laisser partir sans payer.
What was exactly the consequence? Quelles ont été les conséquences de tous ces coups sur votre famille?
Mahirap po, ma'am.
Ça a été une période très difficile pour toute la famille. Cela a provoqué des conflits. Mon mari m'a quittée, il a disparu pendant un mois, parce qu'en plus il n'arrivait pas à trouver de travail. Je n'avais plus du tout d'argent. J'ai dû demander à mes voisins s'ils n'avaient pas des petits travaux à me faire faire. J'ai fait des lessives pour eux, j'ai lavé des vêtements et j'ai aussi dû mendier, qui mendait de l'argent autour de moi. J'ai réussi à réunir 900 pesos, 20 euros, ce qui m'a permis d'acheter certains médicaments, un peu de nourriture pour mes enfants et de payer le déplacement pour me rendre au PCMC. L'hôpital pédiatrique. J'ai eu à traverser tout ça, c'était très difficile. Avec en plus, à ce moment-là, un conflit avec mon mari. Comme on n'avait pas d'argent pour payer les traitements, pour acheter la nourriture, les disputes avec mon mari et sa famille étaient très fréquentes.
Aujourd'hui, est-ce que l'ensemble des traitements contre la leucémie est gratuit ou avez-vous encore des soins à payer ?
Les examens de laboratoire comme les examens de sang sont payants, même si les traitements de chimiothérapie sont gratuits. C'est pour ça que je continue à aller voir des associations de charité pour leur demander de m'aider et j'emprunte également de l'argent à mes voisins. Les examens de sang coûtent 262 pesos, 5 euros, et doivent être réalisés deux fois par semaine. En tout, j'ai besoin de 3000 pesos, 60 euros par mois.
Cathy Forget, vous étiez là hein, quand j'ai rencontré Gina en périphérie de Manille, une rencontre qui nous a tous beaucoup marqués. Elle nous dit beaucoup de choses, je vais vous faire réagir à beaucoup d'éléments. Le premier, c'est vraiment comment la maladie plonge finalement la famille dans le chaos et l'endettement et du coup, évidemment, d'ailleurs, des disputes.
Oui, vous avez raison. L'histoire de Gina et de son fils Samuel illustre parfaitement bien les conséquences de la maladie sur des populations déjà très pauvres. Et on voit très bien toutes les barrières d'accès aux soins. La première barrière pour cette famille, pour Gina, pour son petit-fils Samuel, c'est la barrière de l'information. Le manque d'information sur la maladie et la pauvreté, bien évidemment, qui fait qu'en premier, cette famille, cette maman va consulter un guérisseur dans son village. Retard d'accès au diagnostic qui est dramatique. Deuxième barrière, c'est le manque de formation cruelle de spécialistes bien formés. Gina, qui aime son fils, bien sûr, après le guérisseur, va voir le centre de santé, ce qu'on appelle le barangay là-bas, tombe sur un agent de santé qui diagnostique une pneumonie. Deuxième retard dans l'accès aux soins. La troisième conséquence de la pauvreté et de cette île, de cet éloignement du centre de santé, c'est le fait du coût pour aller à l'hôpital. Gina le dit très bien, hein, les conséquences sur son budget. Et puis, bien évidemment, les coûts des traitements prohibitifs.
Il a fallu trois mois pour que le diagnostic soit posé. Entre le moment où elle met le pied, je passe l'étape tradipraticien, je dirais, le moment où elle met le pied dans le système de santé, au moment où le diagnostic est posé, et même en passant dans un hôpital, qui était plutôt d'ailleurs a priori un bon hôpital, il faut trois mois pour que le bon diagnostic soit posé. On dit que 2/3 des enfants atteints se présentent à un stade avancé de la maladie. Moi, je trouve que dans ces situations, on a un peu tendance à accuser les parents, à dire que les parents viennent pas attendre. Dans toutes les histoires que j'ai pu entendre aux Philippines, c'est pas la faute des parents. C'est la faute du personnel médical qui pose pas le bon diagnostic, non ? On peut dire ça, Cathy Forget ?
Alors, je pense qu'il faut agir sur tous les leviers. Hein. Ils sont vraiment corrélés. Il y a l'information, il y a la formation, il y a l'accès. Mais vous avez raison. Ce qu'on a fait à Manille, notamment, et puis au-delà, sur toutes les Philippines, c'est tisser un réseau de soins et décentraliser les soins. Parce que l'étape essentielle qu'il ne faut pas louper, c'est le diagnostic le plus précoce possible.
Il est compliqué à poser, ce diagnostic ? Ou en fait, il n'est pas compliqué ? C'est pas un examen de biologie très poussé ?
Alors, ça dépend des types de cancers, mais... on va dire que pour beaucoup de cancers, ceux qui sont les plus fréquents aux Philippines, hein, qui sont les leucémies, les lymphomes, on va prendre par exemple le cas du rétinoblastome qui est très fréquent aux Philippines, c'est deux signes. C'est une tache blanche dans l'œil, c'est du strabisme. Et si vous avez l'un de ces deux signes, tout de suite il faut faire un fond d'œil. Et si le diagnostic est posé, on peut guérir 100%, c'est ce
C'est facilement guérissable. Oui. Une grande partie, pas tous, hein, mais une grande partie de ces cancers des enfants sont en fait facilement soignables et guérissables.
Oui, c'est là une inégalité à laquelle la Fondation s'est attaquée, c'est que dans les pays les plus développés, on va guérir 80% ou plus des cancers des enfants, et que dans les pays les moins avancés, comme les Philippines, on va tomber à 20%, voire dans les pays les plus pauvres, que 10%. Alors que les cancers sont pas une fatalité et qu'on peut les guérir.
On va revenir hein, tout au long de cette émission justement sur la formation des médecins, les traitements et on verra aussi l'ensemble des traitements, ce qu'a aussi évoqué Gina dans son témoignage.
Actualité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de l'accès au traitement contre le cancer des enfants avec Cathy Forger de la Fondation Sanofi Espoir. On part maintenant pour le PCMC, le Philippine Children's Medical Center. C'est en fait l'hôpital pédiatrique de référence aux Philippines, le meilleur d'ailleurs pour le traitement du cancer pédiatrique dans ce pays. C'est un assez grand hôpital, en tout 1000 employés y travaillent, 350 infirmières, 350 médecins, 300 personnels administratifs. Il y a 270 lits pour accueillir les enfants malades. Et le service d'oncologie pédiatrique comporte lui 20 lits, avec d'ailleurs en projet 50 lits supplémentaires. J'y ai rencontré le docteur Maria Cecilia Longson-Cruz. Elle est pédiatre oncologue. Et elle nous explique en fait au départ les difficultés à mobiliser pour améliorer cet accès au traitement du cancer.
The budget that they allot for health is, you know, very, very limited. And then,
le budget qui est consacré à la santé aux Philippines est très, très limité. Et bien sûr, avec si peu de moyens, l'essentiel des ressources est consacré aux maladies infectieuses, parce que ce sont des maladies que l'on sait soigner et guérir. Mais maintenant que nous voyons arriver de nombreux cas de cancer chez les enfants, nous voulons que le gouvernement, mais aussi le grand public, sache que les cancers pédiatriques peuvent aussi se guérir. Et investir dans le traitement des cancers pédiatriques ne coûte pas si cher si vous pensez à plus long terme. C'est-à-dire que ces enfants pourront apporter leur force de travail au pays.
Grâce à cet argument, vous avez réussi à obtenir que la chimiothérapie soit prise en charge par l'État et donc gratuite pour le patient.
Les traitements de chimiothérapie qui sont donnés gratuitement aux malades par le ministère de la Santé ne le sont que pour certains cancers, certains types de leucémies et de tumeurs. Ce qui veut dire qu'il y a encore des leucémies et des cancers pour lesquels nous n'avons pas d'aide. Au départ, la stratégie est de ne prévoir des financements que pour les formes de cancer les plus facilement guérissables. Pour ceux à plus haut risque, plus difficiles à guérir, nous n'avons pas d'aide financière. Les patients, s'ils veulent se soigner, doivent payer leurs médicaments. Mais la chimiothérapie n'est pas le seul traitement contre les cancers. Il y a d'autres médicaments dont le patient a besoin. En 2015, nous bénéficions d'une petite aide pour donner des antibiotiques aux enfants cancéreux. Mais c'est un domaine où nous avons aussi besoin de trouver plus de financement. Car les enfants qui ont un cancer risquent d'avoir des complications. Ils ont plus de risques de développer des infections qui nécessiteraient d'utiliser des antibiotiques pendant une longue période. Et ce type d'antibiotique est cher.
Nous n'avons pas encore parlé de la douleur. Quels sont les médicaments dont vous disposez pour traiter la douleur? Et les patients doivent-ils payer pour bénéficier de ces traitements?
Oui, les patients doivent payer les antidouleurs. On a eu des difficultés car certains de ces médicaments étaient considérés comme illégaux. Le ministère de la Santé ne pouvait pas fournir ce type de médicaments. Il fallait mettre en place des procédures particulières.
We do have morphine here and we give them to very severe forms of pain.
Mais nous avons maintenant de la morphine. On ne la donne qu'en cas de douleur intense. La morphine ne coûte pas cher, elle est relativement facile d'accès pour les malades, mais je pense qu'il y a encore des réticences à l'utiliser, par peur d'accoutumance et de risque d'addiction. Mais effectivement, le problème qui demeure, c'est que les patients doivent payer pour avoir des antidouleurs.
Cathy Forger, la situation des Philippines est un pays très intéressant parce que donc ils ont avancé dans leur procédure. Le traitement de chimiothérapie, qui est le traitement de base des cancers des enfants, est gratuit, on l'a bien compris, pour certains cancers. Mais le reste autour, les antibiotiques aussi d'ailleurs sont gratuits, mais le reste autour ne l'est pas. Et on l'a bien vu dans le cas de Gina tout à l'heure, si les examens biologiques ne sont pas aussi gratuits, si les traitements antidouleurs ne sont pas, de la famille s'endette aussi.
Oui, vous avez raison. Cela fait 10 ans que la Fondation accompagne le programme aux Philippines. Et je dois dire qu'on est admiratif du travail qui a été accompli, surtout des résultats. Parce que on a démarré avec eux par une campagne d'information, d'éducation des parents, par la formation des acteurs de santé. On est passé de 20 oncopédiatres à plus de 55 aujourd'hui. 37 réseaux de soins sont mis en service. Et ce qui est très important, c'est
l'accès. Oui, vous les aidez aussi à faire du plaidoyer auprès de l'État pour justement, c'est ça qui a permis que l'État prennent en charge les traitements de chimiothérapie.
Justement, ce plaidoyer, il faut le continuer. La mobilisation est loin d'être terminée, mais il a porté ses fruits, puisqu'au jour d'aujourd'hui, l'assurance santé, ce qu'on appelle le Phil Health Insurance, aux Philippines, prend en charge, comme vous l'avez vu, à la fois les traitements anti-leucémiques, certains antibiotiques, mais ce n'est pas assez. Donc, il faut
absolument continuer le travail de plaidoyer.
Et dans l'histoire de Gina qu'on a entendue au tout début d'émission, elle continue finalement encore aujourd'hui à s'endetter à cause de ces traitements complémentaires, dont effectivement les antidouleurs, les examens biologiques, qui continuent finalement à endetter la famille. En quoi consiste, on est encore sur ce cas concret hein, des Philippines, après on parlera plus largement de la fondation Sanofi, en quoi vous aidez justement les Philippines sur la question du cancer des enfants?
Alors, ce que a fait la Fondation il y a 10 ans que nous sommes engagés, on a choisi la cause des cancers des enfants exactement pour le fait que c'est une inégalité, c'est une injustice. Il y a trop de différences entre les taux de survie dans les pays développés et puis dans les pays comme les Philippines. Donc l'idée, c'était de mobiliser toute une communauté d'experts de toutes les grandes organisations, l'Union internationale contre le cancer, le Saint Jude Hospital, qui est une référence en matière de cancer, la Société internationale d'oncologie pédiatrique.
Qui est un hôpital à Memphis aux États-Unis.
Memphis, d'ailleurs, la directrice médicale du programme est à Memphis hein, pour cet hôpital de référence. Donc, de mobiliser toute cette communauté et d'aider des équipes comme celle du docteur Lectiones aux Philippines, mais également dans beaucoup d'autres pays d'Asie, d'Afrique, à une prise en charge globale du cancer des enfants. Donc, au-delà d'un soutien financier qu'apporte la Fondation, c'est toute cette mise en réseau, c'est ces experts qui vont accompagner année après année, bon, ça fait 10 ans maintenant pour les Philippines, ces programmes justement pour essayer de lutter contre toutes les barrières, que ça soit l'éducation, c'est-à-dire renforcer le système de soins, le mettre en réseau, et puis, comme on l'a vu, continuer le plaidoyer parce que la responsabilité première, finalement, c'est celle aussi des autorités.
Parce que votre aide, hein, l'aide de la Fondation, finalement, est assez faible. Hein. Si je prends l'exemple des Philippines, c'est 70 000 euros par an. C'est pas énorme, c'est peu. Quand on sait, par exemple, pour le Global Improvement in Child Cancer aux Philippines, hein, qui est l'initiative qui, justement, cherche à améliorer les traitements des cancers aux Philippines, qui a un budget de 2 millions d'euros par an, 70 000, finalement, c'est pas beaucoup. Votre aide, elle est finalement pas tellement financière, mais plus d'expertise.
Alors, je crois que l'aide financière, elle est quand même importante. Hein. Au
ça
global,
me parle beaucoup, moi.
Oui. Alors, au global, pendant 10 ans, pour toute l'initiative My Child Matters, hein, qui s'est déployée, on a aidé 45 initiatives dans 33 pays, c'est 8,5 millions à date, aujourd'hui. Mais vous avez raison, en fait, c'est un accompagnement année après année, j'ai dit 10 ans pour les Philippines, et c'est ça qui est important. Parce que, vous l'avez vu, il y a beaucoup de barrières à surmonter, ça demande un engagement sur la durée, et au-delà de l'aide financière, tous les ans, c'est tout ce partage d'expérience, tout ce réseau d'experts qui est tissé, pour justement renforcer ce réseau de soins et continuer le plaidoyer pour qu'un jour, et c'est le cas, hein, puisque maintenant il y a une vraie écoute des autorités de santé aux Philippines, pour que les cancers des enfants deviennent une priorité de santé et qu'il y ait effectivement une assurance santé pour les familles les plus pauvres.
Effectivement, quand on y était en même temps qu'un pédiatre oncologiste de ce St. Jude Children's Research Hospital à Memphis, un des grands spécialistes du cancer pédiatrique, et du coup est là pour donner des conseils sur la bonne application du bon traitement, c'est ça en fait?
Alors c'est au-delà du traitement, effectivement, vous avez rencontré le docteur Raul Ribeiro qui est au St. Jude Hospital, et qui est aussi président de l'initiative My Child Matters depuis l'origine. Et c'est cette mise en réseau, c'est-à-dire cette possibilité de toute cette coopération internationale que l'on met autour de chacun des projets qui est très importante. Parce que finalement, quand on regarde le problème des cancers des enfants, qu'on prenne les Philippines, qu'on prenne le Sénégal, qu'on prenne le Paraguay où on est aussi présent, les problèmes sont les mêmes, les problèmes d'éducation, les problèmes de formation, de décentralisation des réseaux de soins, les problèmes d'accès aux soins des familles pauvres. Donc il y a beaucoup à partager des expériences d'un pays à l'autre.
Et on parlera justement dans la deuxième partie de votre action dans les autres pays, puisqu'il n'y a pas que les Philippines, même si on reviendra aussi sur ce qui se fait aux Philippines. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la prise en charge du cancer des enfants dans les pays à faible revenu, avec l'exemple de ce qui se fait aux Philippines, avec nous Cathy Forger, qui est déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir, qui soutient des projets aux Philippines et dans les pays en développement pour améliorer, entre autres, les traitements des cancers pédiatriques. Et si vous avez envie, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une jeune fille de 16 ans, Patricia, qui est atteinte d'une leucémie. Elle est actuellement soignée au PCMC, le Philippines Children's Medical Center, c'est l'hôpital pédiatrique de référence aux Philippines. Pour elle également, il a fallu un certain temps avant que le bon diagnostic ne soit posé.
Actually po, ano siya, simula po nung last April, May, June. So 2 months.
Il a fallu 2 ou 3 mois pour que le diagnostic de leucémie soit posé. Au début, j'avais beaucoup de symptômes différents. J'avais une fièvre très forte, j'ai eu une salmonellose. Après, j'ai eu des douleurs dans tout le corps, particulièrement dans les os. Et c'est à la suite de tout ça qu'on a trouvé que j'étais atteinte de leucémie.
And how many doctors? Combien avez-vous vu de médecins ou combien de fois avez-vous vu le médecin avant que le diagnostic ne soit posé?
Madami pong doktor na pumunta sa akin eh. Tapos doon po sa una kong hospital.
J'ai vu beaucoup de médecins. J'ai vu un pédiatre et même un hématologue près de chez moi, dans ma région. Et ce sont eux qui m'ont dit que je devais aller à Manille. Je suis donc allée à Manille, dans un hôpital. Là, j'ai de nouveau vu plusieurs médecins, un interne, un pédiatre, un hématologue, et ils m'ont conseillé de me rendre au PCMC, le Philippine Children's Medical Center, l'hôpital pédiatrique de référence aux Philippines. Et c'est là enfin qu'on a pu poser le bon diagnostic et qu'on m'a dit que j'avais une leucémie.
How did you react? Comment avez-vous réagi quand les médecins vous ont dit que vous aviez une leucémie?
Bien sûr, j'ai eu peur et bien sûr j'ai pleuré quand je l'ai appris. Mais je me suis dit qu'il y avait une raison, que Dieu avait un but. C'est ce que m'ont dit mes amis et c'est aussi ce à quoi je crois. Et c'est ce qui me permet de tenir.
How did you react? Et comment réagissez-vous maintenant à la chimiothérapie? En quoi est-ce difficile?
Nung una po mahirap kasi ang sakit, hindi ko kaya, parang nanghihina po ako. Then nung
au début, c'était très douloureux. Je n'aimais pas ça, car je me sentais très fatiguée, très faible. Mais avec le temps, je m'habitue. Je m'habitue à la douleur. Et je sais que c'est la seule façon pour moi d'aller mieux, de guérir. Et c'est pour ça que je l'accepte.
You look in good form. Vous semblez en bonne forme, vous souriez, mais j'imagine que ce n'est pas tout le temps comme ça.
Oui, bien sûr, c'est parfois difficile, c'est inévitable. Par exemple, il arrive parfois que quand je suis avec mes amis et qu'on sort, j'attrape froid, je tousse. Et dans ces cas-là, après, je dois rester confinée chez moi. Du coup, je ne peux plus voir mes amis, mais je reste en contact avec eux grâce à Internet et aux réseaux sociaux.
Cathy Forger, grâce à Facebook, effectivement, cette jeune fille arrive à rester en contact. Les Philippines, c'est un pays assez particulier, hein, plus de 7000 îles, et du coup, beaucoup de difficultés d'accès aux soins, mais d'accès, je dirais, physique, de déplacement. On l'a vu aussi pour plusieurs malades. C'est compliqué d'arriver jusqu'à Manille et au centre de référence sur le traitement des cancers des enfants.
Oui, c'est très, très compliqué. Je voudrais déjà revenir sur le témoignage de cette jeune fille parce qu'il est, il est exemplaire parce qu'elle est positive, elle est forte et il illustre très bien ce problème d'éloignement, ce problème d'accès aux soins et aux diagnostics. Quand on a, au niveau de la fondation, quand on a commencé à accompagner le programme, il y avait plus de 2/3 des enfants qui arrivaient à cette de complications et de décès trop tard. Au jour d'aujourd'hui, les chiffres sont significatifs puisque l'hôpital est devenu centre de référence et que on est passé de 16% de taux de survie à plus de 76% et que des enfants, enfin des jeunes comme cette jeune fille ou comme Samuel qui est atteint de leucémie, ils ont 5 fois plus de chances d'être guéris au jour d'aujourd'hui qu'il a 10 ans.
Donc on avance. Et ce qu'il faut redire, et ce que le grand public d'ailleurs, mais partout dans le monde, a du mal à entendre, c'est qu'il y a de nombreux cancers pédiatriques qui se guérissent.
Oui, il faut le dire, les cancers des enfants, ce n'est pas d'une fatalité. On peut les guérir sous réserve d'un diagnostic le plus précoce possible et d'une prise en charge avec les traitements adéquats.
Je voulais retrouver le nom, c'est ça, il y a 120 pédiatres oncologues aux Philippines, un pays de 100 millions d'habitants, donc on en manque encore, et 60% sont à Manille. Ça, c'est aussi l'autre problème, la question de la décentralisation des soins.
Oui, c'est très important de décentraliser les soins parce que le diagnostic, il est fait au plus près des personnes. D'où tout le travail qui a été conduit avec l'équipe du docteur Lectionnes. Et au jour d'aujourd'hui, il y a 37 réseaux de soins qui sont mis en réseau. Ce n'est pas encore assez. Il faut continuer, mais il y en a déjà 37.
Et je voulais donner un autre chiffre. Avant justement ce programme d'accès au traitement contre le cancer, il y avait 80% d'abandon de traitement aux Philippines. Aujourd'hui, 10 ans après, il n'y en a plus que 10%, et c'est entre autres lié à cette gratuité de la chimiothérapie, même si on a vu que ce n'était pas suffisant. Alors, pour faciliter l'accès aux soins, un système d'assurance maladie est en train de se mettre en place. Hein. L'objectif maintenant, c'est que tous les Philippins puissent en bénéficier, pas simplement ceux qui travaillent dans le secteur formel, mais ceux aussi qui travaillent dans le secteur informel. Le docteur Robert Luiso est vice-président du PhilHealth, c'est ce système d'assurance maladie philippin, et il explique maintenant aussi comment son organisme se bat pour faire baisser le prix des médicaments pour les rendre justement plus accessibles aux Philippins.
Quand on a commencé à regarder la liste des médicaments que nous utilisions, nous nous sommes aperçus que la plupart d'entre eux n'étaient plus protégés par un brevet, ce qui veut dire qu'ils auraient dû être bon marché. Mais en fait, aux Philippines, ils restaient très chers. En 2008, nous avons lancé une initiative avec toutes les parties concernées afin de réguler le prix des médicaments, et nous avons commencé par viser les protocoles de traitement des leucémies pour diviser le prix de ces traitements par deux. Quand l'industrie pharmaceutique a vu que nous travaillions sur cette question, elle a commencé volontairement à diminuer les prix. Et les laboratoires de génériques les ont même poussés à baisser encore plus leurs prix. Et là, le gouvernement a commencé à se dire « Mais nous pouvons maintenant nous offrir ces traitements. Nous pouvons payer ces médicaments. Nous avons l'argent pour les 3 ans de traitement nécessaires pour ce type de cancer. Aussi, nous avons commencé à acheter ces médicaments, mais on s'est limité à la chimiothérapie. Le docetaxel ou Taxotere est un des exemples dont je suis fier. Si je ne me trompe pas, ce traitement contre le cancer nous coûtait 27 000 pesos, soit 450 euros. Et maintenant, l'industrie nous le vend à peu près 4 000 pesos, autrement dit 80 euros. On a donc été capable d'envoyer un message aux différentes compagnies pharmaceutiques. Si elles travaillent avec nous, elles peuvent réaliser des profits sur le volume de leur vente et non pas en pratiquant des prix excessifs. Et j'ai des données qui prouvent cela. Parce que quand on a imposé une régulation des prix en 2008-2009, pour les 20 médicaments les plus achetés aux Philippines, pendant les deux premières années, le marché est resté le même, mais après la deuxième année, on a pu voir une augmentation des ventes, parce que les gens, même avec peu de moyens, pouvaient se l'acheter, de même que les hôpitaux. Le gouvernement aussi s'est mis à acheter plus. Leur crainte était que l'arrivée des génériques fasse disparaître le marché, ce qui n'a pas été le cas. Mon exemple classique concerne le lodipine, un antihypertenseur. Je ne peux pas vous donner le nom de marque, mais ce médicament de marque était aux Philippines, un des plus chers en Asie, quand nous avons commencé à négocier. Il était vendu aux Philippines 45 pesos, près d'un euro, pour une tablette à 5 mg. Mais quand on a regardé les prix pratiqués en Corée, en Thaïlande, entre autres, ces pays le vendaient entre 19 et 35 pesos, autrement dit entre 38 et 70 centimes d'euros. Nous étions donc un des pays les plus chers. L'industrie a avancé différentes excuses, la difficulté de créer un marché ici, le coût des transports. Mais il n'y a pas que ce médicament et cette entreprise qui se trouvent dans cette situation. C'est vrai pour beaucoup d'autres qui ont le même modèle économique. On leur a posé un défi en leur disant de changer de modèle économique. Nous croyons qu'il existe un modèle économique qui peut aider de nombreuses personnes. Donc, on a imposé une régulation des prix en divisant le prix des médicaments par deux. Certaines entreprises pharmaceutiques ont aussi volontairement baissé leur prix. Et du coup, le lodipine, ce médicament qui coûtait 45 pesos, est descendu à 22 pesos. Et si vous allez dans une pharmacie qui vend des génériques, ce même médicament, vous pouvez l'acheter pour 5 pesos, c'est-à-dire 8 fois moins cher.
So that's 1/8. Cathy Forger, vous êtes déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir. On a pendant longtemps, là, dans cette émission, parlé de la question des difficultés d'accès aux soins, de la formation des médecins qu'il faut certes améliorer. Il y a une autre question qui est importante, c'est celle du coût des traitements.
Oui, vous avez raison. Le témoignage du directeur du Phil Health Insurance m'amène deux commentaires. Le premier, c'est que la maladie pour les personnes pauvres, comme Gina, qu'on a écouté au démarrage, est une trappe aux pauvretés. D'où l'importance d'accompagner et de plaidoyer pour des systèmes d'une meilleure couverture santé pour ces personnes qui travaillent dans le secteur informel. Mon deuxième commentaire, effectivement, sur l'accès au traitement et le prix des médicaments. La Fondation Sanofi Espoir, sa mission, c'est de réduire les inégalités en santé, c'est de travailler sur tous les obstacles que sont l'éducation, la formation, la décentralisation des soins. Mais effectivement, il y a une vraie responsabilité sociale de la part des entreprises de santé de travailler sur l'accès aux soins, l'accès aux traitements. Des médicaments. C'est une question de responsabilité sociale.
Tout à fait. Et ça, c'est une discussion que vous avez avec les managers de Sanofi sur le fait que... Alors, en l'occurrence, vous le dites bien, il n'y a pas d'anticancéreux que justement vous vendez aux Philippines. Ça évite quelques questions de conflits d'intérêts là-dessus. Mais quand même, est-ce que vous avez une discussion avec eux pour qu'il y ait aussi une baisse de prix des médicaments?
Alors... Si la Fondation Sanofi Espoir a choisi d'intervenir dans le secteur des cancers des enfants, c'est effectivement parce qu'on n'a pas directement impliqué en termes de traitement pour pas avoir de conflit d'intérêts. Mais au niveau de Sanofi, il y a une vraie réflexion, mais plus qu'une réflexion, il y a des actions et des programmes mis en place sur l'accès au traitement à des prix différenciés dans différents pays. Effectivement.
À des prix différenciés, mais ce qu'on voit même, ce qui est intéressant dans ce qu'a raconté Robert Louisseau, c'est que les prix étaient même plus chers dans son pays que dans d'autres pays. Voilà, il y a une bataille quand même qui se joue. Et souvent, ces pays, je dirais, en développement, ont des difficultés à dialoguer là-dessus avec l'industrie pharmaceutique. Ils ne sont pas en position de force comme les pays occidentaux.
C'est un travail à faire.
Est-ce que ça a marché pour vous aujourd'hui, finalement, je veux dire, les pays en développement?
Alors, moi, je suis au niveau de la Fondation Sanofi Espoir, donc ça, c'est une question à poser à l'entreprise. Mais je crois que toute cette réflexion, elle ne dépend pas que d'un acteur. C'est vrai, elle demande à mettre autour de la table tous les acteurs de la société civile, des États, des entreprises, des fondations, pour réfléchir à comment améliorer l'accès aux soins en général, parce que ça va bien au-delà de l'accès au traitement.
On va revenir justement aux actions de la Fondation Sanofi Espoir. On a longuement parlé de ce qui se fait aux Philippines. Il y a à peu près l'équivalent qui se fait dans d'autres pays, je pense au Sénégal, à la Thaïlande.
Oui, la Fondation Sanofi Espoir a lancé il y a 10 ans cette initiative, hein, My Chai Matters, et l'idée c'était vraiment de s'attaquer à toutes ces barrières dans les pays dits en développement, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. Alors, les enjeux sont les mêmes, à des niveaux d'avancement différents. Si on prend par exemple la Fondation Sanofi Espoir accompagne au Maroc par exemple, c'est une école d'oncologie pédiatrique, parce qu'on l'a vu, c'est très important de renforcer la formation. Et cette école bénéficie aux professionnels de santé d'Afrique subsaharienne. Autre exemple, toujours pour l'Afrique subsaharienne, c'est la mise en place d'un réseau sur le rétinoblastome, parce que le rétinoblastome, c'est une tumeur de la rétine qui peut, si cette tumeur est diagnostiquée le plus tôt possible, peut être guérie à 100%. On est loin d'être à ce niveau-là, bien sûr, dans ces pays-là. Mais au Mali, où l'initiative a démarré au départ, on est passé de 20% à près de 60% de taux de guérison au jour d'aujourd'hui. Si je prends un autre exemple sur le Paraguay, c'est pareil que pour les Philippines, c'est un pays assez étendu et il fallait décentraliser le réseau de soins. Donc c'était la mise en place de cliniques satellites. Donc dans chacun des pays, c'est... comment on va pouvoir surmonter ces barrières et mettre en place, que ce soit une campagne d'information, renforcer la formation des acteurs de santé, puis également à l'amont aussi, c'est en Colombie par exemple, les registres du cancer. Au jour d'aujourd'hui, de quelle situation on part? On a donné des chiffres, mais les chiffres, ils sont complètement sous-évalués.
Alors ça, c'est sur la question du cancer des enfants. Vous travaillez aussi sur la mortalité maternelle et néonatale. Dans quel pays? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, la Fondation Sanofi Espoir a choisi, au-delà de la réponse aux urgences, parce qu'on
va y revenir
on
après,
répond aussi aux urgences humanitaires qui sont importantes, on a choisi de focaliser notre engagement sur 3 domaines, donc les cancers des enfants dont nous avons parlé, la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Donc, aujourd'hui, on a 13 programmes en cours, pareil, Asie, Afrique, Amérique latine, pour réduire cette mortalité maternelle et néonatale, vous savez que c'est la plus grande violence faite aux femmes, c'est de risquer de mourir en donnant la vie. Et notamment,
il y a encore 280 000 femmes hein, par an qui décèdent
exactement
de la grossesse et l'accouchement.
Et les taux les plus bas sont, les plus dramatiques sont en Afrique subsaharienne. Donc, on agit sur des programmes pareils, d'éducation, de formation, de réseau de soins, surtout également en renforçant l'expertise des sages-femmes, parce que notamment en zone rurale, elles jouent un rôle clé. Elles font tout. Elles font l'éducation planifiée familiale, le suivi de grossesse, l'accouchement, l'allaitement, etc.
Toute une action aussi pour améliorer l'accès aux soins des plus démunis. Concrètement, comment ?
Alors, l'accès aux soins des plus démunis, c'est en France, mais c'est également en France. Alors, en France, la Fondation Sanofi Espoir est partenaire historique depuis plus de 20 ans d'organisations comme le SAMU Social, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, Solipam, justement, qui prend en charge aussi les mamans et leurs bébés, les mamans en grande difficulté pendant leur grossesse. Et l'idée, c'est de les faire travailler ensemble. L'intérêt d'une fondation, c'est d'être un maillage, d'être un réseau. Et puis, hors France, c'est, on en a parlé d'ailleurs pour les Philippines, c'est la couverture santé. On parle beaucoup au jour d'aujourd'hui de couverture universelle de santé. J'espère qu'on y arrivera dans des pays de plus en plus nombreux, mais ça va prendre beaucoup de
temps.
Ça ne
se fait pas du jour au lendemain.
Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, notamment pour le secteur informel, hein, les plus pauvres des plus pauvres qui ont du mal à avoir accès aux soins, c'est l'accompagnement des programmes pilotes de couverture de santé.
Alors là, on a parlé des actions, je dirais, sur le long terme, mais vous avez aussi un volet urgence. Dans quelle situation vous êtes intervenu ou vous intervenez encore aujourd'hui ?
Alors sur les urgences humanitaires, on intervient sur deux terrains, que ce soit les catastrophes naturelles ou les conflits armés. C'est-à-dire partout où dans ces situations, les personnes qui sont... Elles peuvent être déplacées, elles peuvent être sinistrées, elles peuvent être blessées, ont besoin d'accès aux soins. Donc au jour d'aujourd'hui, on est aussi bien en post-urgence au niveau des Philippines, dont on a parlé, hein, l'île de l'été, l'île de Cebu, par exemple, mais également dans la prise en charge de réfugiés syriens. Dans les camps de réfugiés qui sont par exemple en Jordanie, au Sud-Soudan, on est dans de nombreux pays malheureusement victimes de conflits.
Le budget annuel en gros de la Fondation Sanofi, hein, j'ai fait juste un petit calcul, c'est à peu près 6 millions d'euros par an, je me trompe pas.
C'est ça à peu près, c'est 37 millions, enfin c'est 34 millions d'euros sur 5 ans, donc on va dire à peu près voilà.
Ce qui peut paraître beaucoup, ça ne paraît quand même pas beaucoup quand on le compare au chiffre d'affaires, 34 milliards, si je ne me trompe, les bénéfices à peu près 6,8 milliards, c'est pas non plus un budget énorme pour une fondation, si, non? Qu'est-ce que...
Alors c'est un bon budget, c'est vrai que nous on voudrait peut-être avoir encore plus de budget, mais au-delà du soutien financier, je pense que ce qui est très important, ce qu'apporte la fondation, c'est ce que reconnaissent nos partenaires, c'est d'abord un engagement sur la durée. On intervient, à part les urgences humanitaires dont on vient de parler, jamais en deçà de 3 ans. Si on veut vraiment rechercher des impacts, que ça soit pour les populations, pour les acteurs de santé, puis voir influer les politiques de santé, ça prend du temps. Donc, vous l'avez vu, pour les cancers des enfants, ça fait 10 ans que nous sommes engagés et nous allons poursuivre notre engagement. Donc, c'est un engagement sur la durée. C'est aussi l'expertise. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes engagés dans des programmes de solidarité internationale. Donc, il y a une vraie expertise d'accompagnement des projets et de plaidoyer avec les autorités de santé. Donc, je pense que c'est toute cette mise en réseau, cet accompagnement aussi. On a 2 comités d'experts, notamment sur les cancers des enfants, mais également sur la mortalité maternelle et néonatale, dont on a parlé également, qui sont très importants pour les équipes locales.
Donc, on a dit un budget à peu près de 6 millions d'euros par an. Je me posais quand même la question toute une partie de cet argent, en fait, permet de défiscaliser. C'est pas simplement de l'argent donné. Il y a une partie qui est défiscalisée via des fondations.
Alors, au niveau des fondations d'entreprise, oui. Ça c'est spécifique dans chacun des pays, hein, mais en France, oui, vous pouvez défiscaliser une partie de vos dons, mais je pense que c'est pas du tout la motivation première d'une entreprise comme Sanofi.
Pourquoi, justement? Non, mais quel est l'objectif d'une fondation comme ça pour Sanofi? On va terminer là-dessus.
Alors, l'objectif, il est multiple. Déjà, quand on fait une fondation d'entreprise, vous avez un intérêt public. Et l'intérêt au jour d'aujourd'hui pour nous, je l'ai dit clairement, c'est notre mission, c'est de contribuer à réduire les inégalités en santé. Donc, en fait, c'est prolonger, s'inscrire dans la responsabilité de l'entreprise. On prolonge la mission de l'entreprise, qui est d'améliorer la santé partout dans le monde. Et nous, on va être sur vraiment les inégalités en santé au niveau des plus pauvres. Ça, c'est la première motivation la plus importante. La deuxième, c'est l'ancrage territorial. On agit dans des pays où Sanofi est implanté. Donc, c'est important parce que ça resserre les liens. Quelque part, c'est redonner aussi dans la communauté dans laquelle l'entreprise est impliquée. Et puis, je pense qu'aussi au niveau, et ça, c'est très important, au niveau de la fierté des collaborateurs.
Au niveau
beaucoup,
interne.
Voilà. De collaborateurs sont impliqués, que ce soit dans les urgences ou dans des actions de plus long terme, à travers du bénévolat ou du mécénat de compétences. Donc ça, c'est très fort, c'est dans l'ADN du groupe depuis l'origine.
Presque. Et vous êtes dans le groupe d'ailleurs depuis très longtemps. Cathy oui. Forger, merci. Vous êtes, je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, on mettra le site internet sur le nôtre, rfi.fr, dans la rubrique Priorité Santé. Et pour terminer, je vous propose de parler du Symposium international intégration de la lutte contre les maladies parasitaires en Afrique subsaharienne qui commence demain à Cotonou, au Bénin. Docteur Philippe Deloron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes parasitologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes directeur du laboratoire Mérite, mère et enfant face aux infections tropicales. Quel est d'abord l'objectif de ce congrès, de cette rencontre ?
L'objectif de cette rencontre est d'inaugurer d'une part le nouveau centre de lutte intégré contre le paludisme qui est en train de se mettre en place au Bénin. Et donc, c'est un colloque inaugural qui doit discuter de stratégies de lutte contre le paludisme au Bénin et dans la sous-région.
Avec des questions très concrètes, hein, vous allez entre autres parler de l'impact du paludisme pendant la grossesse sur la santé de la mère et de l'enfant, parce qu'on avance beaucoup dans ce domaine-là. Alors d'abord, quel est cet impact et puis quels sont justement les traitements préconisés ?
L'impact de la... Donc nous, on travaille depuis plusieurs années au Bénin sur le paludisme de la femme enceinte et sur l'impact que cette maladie a en termes de santé publique. C'est un impact majeur puisque c'est une cause importante d'anémie maternelle pendant la grossesse et surtout c'est une cause importante de réduction du poids de naissance et d'augmentation de la prévalence des faibles poids de naissance chez les enfants, qui est associée à une morbidité et une mortalité largement accrue dans les premières années de vie.
Et du coup ?
Et donc...
Oui, allez-y.
Pardon ?
Allez-y.
Oui. Et donc, on s'intéresse à ce problème-là en suivant des cohortes de groupes de femmes enceintes pendant la durée de la grossesse. Les techniques de prévention qui sont disponibles sont actuellement essentiellement de l'ordre de deux. D'une part, la mise à disposition de moustiquaires imprégnés d'insecticides et d'autre part, une prévention médicamenteuse que l'on appelle le traitement préventif intermittent qui consiste à distribuer une dose curative d'un médicament qui est la sulfadoxine pyrimethamine à trois reprises pendant le deuxième et troisième trimestre de grossesse. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Le problème majeur est que les femmes enceintes ne reçoivent aucune prévention contre le paludisme au cours du premier trimestre, essentiellement parce que la grossesse, dans les conditions africaines, n'est pas diagnostiquée avant, les femmes ne se présentant au centre de santé que vers le quatrième ou cinquième mois de grossesse. Ça ferait donc tout l'intérêt d'un vaccin contre le paludisme de la femme enceinte sur lequel différentes équipes travaillent, dont la nôtre.
Et dans les femmes justement que vous avez suivies, la question de donner ce traitement préventif pendant la grossesse, hein, trois fois par intermittence, ce que vous disiez, effectivement, ça donne de bons résultats ?
Ça donne des résultats dans la mesure où ça améliore le pronostic de la grossesse, mais ça donne des résultats qui ne sont pas totalement satisfaisants, notamment, bon, d'une part, pour ce que j'ai dit, à savoir que la première partie de la grossesse n'est pas protégée. Deuxièmement, le médicament utilisé fait face à de plus en plus de résistances parasitaires et donc est de moins en moins efficace. Et si l'on suit, malgré la distribution de médicaments, il reste un nombre de femmes infectées qui est non négligeable, de l'ordre de 5 à 10% par les techniques traditionnelles qui sont utilisés, qui sont la goutte épaisse ou le test de diagnostic rapide. Mais si l'on utilise des techniques plus sensibles, comme la PCR, on va doubler, voire tripler, cette proportion de femmes infectées qui sont donc non protégées par les techniques actuelles.
C'est ça. C'est aussi quelque chose que vous allez aborder hein, pendant ce symposium, la question des tests de diagnostic et aussi ce que vous avez évoqué, la question des résistances au traitement.
Tout à fait. Tout ça, ça va être abordé dans le symposium et mis en perspective essayer d'élaborer des stratégies de lutte un peu plus performantes que celles qui sont disponibles actuellement.
J'ai juste encore une dernière question à vous poser. On comprend bien dans ce que vous dites que tout ça demande aussi qu'il y ait un bon suivi de la grossesse et on sait que c'est pas toujours le cas, simplement à cause d'éloignement des centres de santé et de coûts.
Oui, c'est sûr, c'est bon. Et aussi de facteurs socioculturels. Je vous disais tout à l'heure que les femmes se présentent au dispensaire ou enfin, à un centre de santé quelconque rarement avant le quatrième ou cinquième mois, ça pose un gros problème. Le problème est effectivement le problème du coût qui, dans certains pays au moins, est pris en charge par des structures ministérielles.
Mais pas toujours. Merci beaucoup.
Mais pas dans tous.
Voilà. Merci beaucoup, docteur Philippe Deloron. Je rappelle que vous êtes parasitologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et que demain démarre un symposium international sur les maladies parasitaires en Afrique subsaharienne. Demain, on parlera des troubles de l'audition. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous faire part de vos questions par téléphone au 33 1 84 22 75 75 et bien sûr, comme toujours, sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.